Starlink, des satellites en nombre. Actuellement, on estime à 8900 le nombre de satellites lancés depuis le début de la conquête de l'espace. Et si 2063 sont toujours opérationnels, plus de 5000 d'entre eux ne le sont plus, mais restent en orbite. Objets auxquels il faut ajouter les étages de fusées et autres débris spatiaux plus ou moins volumineux, soit un total d'environ 7000 objets. Mais quel est cet étrange train lumineux que nous avons vu passer dans le ciel étoilé dès le 22 avril? Ce sont les 60 satellites du milliardaire Elon Musk qui font suite aux 362 déjà mis en orbite depuis un an et composant la première vague du projet Starlink monté par sa société SpaceX, fournisseur d'accès Internet à haut débit. L'objectif à long terme étant d'étendre à 42 000 le nombre de ces mini-satellites d'environ 230 kg chacun et qui vont former une méga-constellation. Sans compter des projets similaires comme ceux de OneWeb, Kuiper, d'Amazon, les projets russes, chinois, etc. Quel est l'enjeu financier du projet Starlink? Tripler le profit sur l'investissement, soit 10 milliards d'investissements pour 30 milliards de profits. Dans ce reportage réalisé par Véronique Armand, Karl Antier, médiateur scientifique au Centre d'astronomie de Saint-Michel, l'Observatoire et passionné des étoiles, partage le vécu des astronomes sur les obstacles que représente cette multitude d'objets volants autour de la planète. À noter qu'une version complète dans laquelle sont abordées d'autres questions est disponible sur notre site de Fréquence Mistral Castellane.
Les astronomes sont inquiets de constater le déploiement de cette armada de satellites. Quel est l'impact sur l'observation de l'univers et notamment sur les photos à longue pause?
L'impact de cette méga constellation de satellites, c'est un impact lumineux. C'est-à-dire que les satellites, on peut les voir, on en voit toutes les nuits. Donc si vous vous asseyez sous un ciel et que vous regardez ce qui passe dans le ciel, vous allez voir les étoiles qui sont fixes et puis vous allez voir des avions. Alors il y en a un petit peu moins souvent qui se déplacent dans le ciel, qui clignotent. Et puis il y aura des points lumineux qui vont se déplacer doucement. En fait, ça c'est des satellites ou des débris spatiaux qui tournent aussi autour de la Terre et qui deviennent visibles, qui sont lumineux parce qu'ils sont éclairés par le Soleil. Et ces satellites-là, quand ils sont en orbite autour de la Terre, ils sont lumineux parce que quand ils sont éclairés par le Soleil, ils nous renvoient la lumière du Soleil et donc c'est pour ça qu'on voit des points lumineux dans le ciel. L'objectif de l'astronomie, c'est justement d'enregistrer la lumière des étoiles et la lumière des astres lointains, en fait des lumières qui sont très très faibles. L'objectif des télescopes, c'est d'essayer de capter le maximum de lumière. Et les satellites, ils sont tellement lumineux qu'ils sont visibles à l'œil nu. C'est-à-dire que si un satellite va passer dans le champ d'un télescope, et en fait, il va enregistrer la lumière du satellite. Donc à chaque fois qu'un satellite va traverser un champ photographique, il va laisser une trace lumineuse sur la photographie. Et en fait, c'est ça le gros impact qu'il va y avoir en astronomie. C'est quand on imagine un télescope qui est pointé dans une région du ciel, jusqu'ici, ça peut arriver qu'accidentellement, il y a un satellite qui passe dans le champ, mais il n'y en avait qu'un. Aujourd'hui, les méga-constellations, ça va être plusieurs milliers de satellites. Et si on a un satellite qui passe, en fait, on va avoir des dizaines et des dizaines de satellites qui vont passer à quelques minutes d'intervalle. C'est-à-dire que sur la photo, on va avoir une seule traînée, mais on va en avoir plusieurs dizaines qui vont s'enchaîner les unes après les autres, ce qui fait que cette région-là du ciel, on ne pourra pas la photographier. Ça va être un vrai gros impact, parce qu'il va falloir faire attention où les satellites vont passer si on est capable de le prévoir. L'autre souci, c'est qu'on est en train de monter aujourd'hui des gros télescopes qui vont scanner des grandes régions du ciel. C'est-à-dire que le champ photographique du télescope, donc la zone du ciel qui va observer, est quelque chose de très large, qui peut faire plusieurs fois la Lune. Une photo du ciel sur une grande portion du ciel, et plus la portion du ciel est grande, plus on a de risques que des satellites passent dedans. Et plus on a de satellites qui tournent autour de la Terre, donc plus on va avoir de chances qu'un satellite passe dans les grandes portions du ciel photographiées. Et donc il y a un télescope notamment qui est dans l'hémisphère sud, on a un souci avec lui, c'est qu'on imagine qu'il va peut-être pas être exploitable du tout. Parce qu'il a un champ qui est tellement large, il photographie des portions de ciel tellement large que c'est quasiment sûr qu'il va avoir des traînées de ces satellites Starlink qui vont passer dans les champs à chaque photographie et donc en fait il sera inexploitable, voire ça peut même endommager les capteurs.
Et quel est votre recours pour éviter ça?
Et bien on n'en a aucun. C'est le gros souci, c'est qu'on n'a aucun recours pour éviter ça. À partir du moment où les satellites sont lancés, et même si on imaginait qu'aujourd'hui, la société SpaceX, qui a ses Starlink, disent on a fait une bêtise, on supprime tout, on arrête. Et bien on a quand même 400, 500 satellites qui sont dans l'espace, et avant qu'ils retombent, alors il y en a quelques-uns qui vont pouvoir faire redescendre, mais on n'a aucun recours, on ne peut pas se protéger de ça. Le seul moyen qu'on aurait, c'est d'imaginer la trajectoire du satellite. Et au moment où il passe, on arrête la capture, on arrête la photo. Mais aujourd'hui, tel que les satellites sont conçus, en fait, ils changent de trajectoire tout seul. Donc chaque satellite, tout seul, il peut changer de trajectoire. Et en changeant de trajectoire, il ne va pas prévenir les astronomes qu'il a changé de trajectoire. Donc même si on prévoit en avance qu'un satellite doit passer, il n'y a rien qui dit que sa trajectoire ne va pas changer deux minutes avant et qu'il va passer au mauvais moment, au mauvais endroit. On n'a aucun recours aujourd'hui.
Donc en fait, quelles sont les conséquences sur la recherche?
On risque d'avoir des instruments qui ne vont pas être utilisables, ou alors qui vont être difficilement utilisable parce que le télescope, il va être tout le temps pollué. Il faut imaginer, c'est comme, pour faire une analogie avec le son, c'est comme si on essayait d'enregistrer des sons qui sont très très faibles et juste à côté, on a un moteur qui se met en marche. C'est un peu l'équivalent en termes de son. Là, on va essayer de capter des lumières qui sont très très faibles et devant, c'est comme si on mettait un phare de bateau qui passait devant et qui faisait un flash de temps en temps sur la photo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des télescopes qui vont avoir du mal à les utiliser. Ceux qui analysent des toutes petites portions de ciel, la probabilité pour qu'un satellite passe dans cette petite portion de ciel, elle est faible. Par contre, des télescopes comme les nouvelles générations qui vont essayer de photographier des grandes portions de ciel, eux, par contre, ils ont beaucoup plus de risques qu'un satellite passe dans le champ. Et le souci avec ces constellations de satellites, c'est que généralement, s'il y a un satellite qui passe, et bien sur, par exemple, 10 minutes, il va y avoir 3, 4, 5 satellites qui vont passer au même endroit.
L'astronomie est ancestrale et elle date de plus de 5000 ans en arrière. À quoi ça sert exactement l'astronomie ?
En soi, à rien. Après, comme toutes les sciences, comme beaucoup de sciences fondamentales, ça n'a pas forcément un impact direct. Ça peut avoir un impact direct si demain on découvre un astéroïde ou une comète dont la trajectoire est amenée à l'amener en collision avec la Terre, là ça aura un vrai impact direct sur l'être humain. Après, il y a aussi des aspects solaires, c'est-à-dire que le Soleil, on sait qu'il émet parfois des bouffées de particules, qu'il émet ce qu'on appelle le vent solaire, il peut y avoir des tempêtes solaires, et ça peut avoir un impact sur la Terre, notamment au niveau des appareils électriques et puis même au niveau des satellites. Donc il y a des aspects d'observation astronomique qui vont avoir un impact direct sur l'homme et sur la Terre, mais ces aspects-là ne sont pas les plus nombreux. Quand on observe une galaxie qui a plusieurs millions ou milliards d'années-lumière, effectivement, ça ne va pas avoir d'impact directement sur notre vie. C'est plus de la compréhension de l'univers, de où on se positionne et de comment l'univers s'est formé, comment est-ce qu'on en est arrivé là et pourquoi l'être humain est là et est-ce que c'est quelque chose d'exceptionnel ou pas. C'est plus des questions fondamentales et des questions philosophiques, des questions de curiosité humaine naturelle que des choses qui vont avoir des impacts directs sur la vie quotidienne des gens, mis à part pour le Soleil et pour les impacts.
Quelle est la durée de vie de ce genre de satellite et quels peuvent être les problèmes de sécurité liés à leur déconnexion ou aux pannes ?
Alors, c'est un des autres soucis. C'est que jusqu'ici, on a lancé à peu près 10 000 satellites depuis le début de l'ère spatiale. Les constellations qui vont être lancées, ça va être notamment pour les Starlink, c'est entre 12 000 et 42 000 satellites, ce qui est énorme. En fait, en une seule méga constellation de satellites, on va lancer plus de satellites que ce qu'on a lancé sur les 70 dernières années. Donc c'est quelque chose qui est monstrueux. Et ces satellites-là, c'est des satellites, entre guillemets, low cost, des satellites qui sont faits à la chaîne et dont la durée de vie est très courte par rapport à d'autres satellites. On vient de fêter les 30 ans du télescope spatial Hubble. Ça veut dire qu'il est depuis 30 ans dans l'espace et qu'il fonctionne depuis 30 ans. La durée de vie des Starlink, elle est estimée à 5 ans. Donc ça donne une idée de la différence de longévité entre ces petits satellites. Hein. C'est des petits satellites qui font à peine 1 mètre cube de diamètre, ils ont un grand panneau solaire qui fait 2 mètres sur 8. Mais c'est des petits satellites qui sont pas conçus pour avoir une durée de vie exceptionnellement longue, qui sont pas prévus pour durer dans le temps. Et c'était une des caractéristiques qui avait été évoquée par Elon Musk, qui est le directeur de SpaceX. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr que la technologie qui est embarquée ait une durée de vie très longue. Alors ils sont prévus pour retomber rapidement sur Terre dans l'atmosphère en cas où ils tombent en panne. Mais aujourd'hui, on a 422 qui ont été lancés sur la dernière année. Et bien sur ces 422 satellites, il y en a déjà 5% qui sont tombés en panne. C'est-à-dire qu'on en a 9 qui sont hors d'usage et on estime qu'il y en a potentiellement 15 qui sont aussi hors d'usage. C'est-à-dire qu'il y en a déjà quasiment 20 qui sont en panne. Alors que ça fait même pas un an qu'ils sont dans l'espace. Quand on imagine, si on fait le même ratio sur le lancement total des satellites, donc le jour où on aura 12 000 satellites, vous imaginez qu'il y en aura 600 qui seront en panne. Et si on augmente à 42 000, on peut imaginer qu'il y aura plus de 2 000 satellites en panne, si on prend ce ratio de 5%, ce qui est énorme en termes de débris spatiaux. Ça fait quand même une pollution qui est gigantesque. Un impact qui est flagrant sur des choses qu'on n'avait encore jamais vues sur toute l'histoire de la conquête spatiale depuis qu'on envoie des satellites, depuis Sputnik, en termes d'événements, c'est qu'en septembre 2019, il y a un satellite, un Starlink, qui est descendu très bas sur son orbite, qui était à 300 km d'altitude, et qui était sur une trajectoire de collision avec un satellite météorologique de l'Agence spatiale européenne. L'ESA envoie un message à SpaceX disant « Attention, vous avez votre Starlink là, qui a une chance sur 1000, c'est 10 fois les seuils d'alerte des satellites de l'ESA, les dangers de collision. » Donc ils envoient un message à SpaceX disant « Bougez votre satellite, décalez-le parce qu'il a des probabilités de collision avec notre satellite. » Et SpaceX en retour a dit « On ne fera rien. Le satellite, on ne le bougera pas. » Et c'est l'ESA qui a été contrainte de faire remonter son satellite de quelques kilomètres en altitude pour être sûr qu'il n'y ait pas de collision avec un satellite Starlink et qui ensuite l'a remis à l'altitude initiale. Mais donc, c'est des collisions sur deux satellites en fonctionnement qu'on n'avait encore jamais eues. Et pour l'instant, il n'y a que 400 satellites en orbite. Il y en aura 12 000 d'ici quelques années. Et c'est là où on se rend compte qu'effectivement, en termes de débris spatiaux, ça va être une pollution encore plus grande jusqu'à aujourd'hui, et en termes de risque de collision, on va augmenter, plus il y a de satellites, plus il y a de risques, donc on risque fortement d'augmenter ce risque, sachant qu'en plus, vu la volonté sur ces derniers exemples de la société SpaceX de faire en sorte que les choses se passent bien, on peut se poser des questions si ça va pas empirer et devenir problématique par le futur.
On peut se poser la question de qui donne les autorisations de mise en orbite, et est-ce qu'il y a une autorité qui peut régler ce genre de problème ?
Eh ben non. Le gros souci, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Quelqu'un qui veut lancer un satellite, et on imagine, il arrive à faire une fusée artisanale, ça n'arrivera pas, mais on peut imaginer qu'il fabrique une fusée artisanale, il met un satellite dans sa fusée et il l'envoie dans l'espace, il a le droit. Il n'y a rien qui l'en empêche. Donc, ouais, n'importe qui peut envoyer son satellite dans l'espace. Dans le cas des États-Unis, il y a une autorité qui est consultée, mais c'est uniquement pour les Américains, et Starlink, SpaceX a été obligé de le contacter, c'est la Commission fédérale des communications. Mais c'est vraiment une instance américaine, et ça, c'est plus pour gérer la communication, donc les bandes de fréquences de communication. Et SpaceX a fait une demande d'utilisation de certaines bandes de fréquences pour communiquer, et a demandé s'il pouvait envoyer tel nombre de satellites à telle altitude. Et cette commission-là a dit oui. Il y a des avocats qui disent qu'elle n'a pas vérifié toutes les données avant de donner cette autorisation, mais c'est une commission américaine, c'est-à-dire que si c'était des Chinois, si c'était des Japonais, si c'était des Européens qui avaient voulu faire le même projet, il n'y a pas de demande à faire. Il n'y a pas d'autorité internationale de contrôle des satellites. Et jusqu'ici, la chance qu'on avait, c'est que si on revient même 10 ans en arrière, c'était quasiment que des entités nationales qui envoyaient des satellites ou continentales comme l'Agence spatiale européenne. C'est-à-dire que l'envoi de satellites était géré par des intérêts scientifiques, des intérêts militaires, mais c'était pas des intérêts économiques ou des intérêts de publicité. Et depuis 10-15 ans, les investisseurs privés, les entreprises privées sont en train de rentrer dans le marché des lanceurs avec SpaceX notamment, mais aussi les satellites. C'est pas qu'ils n'ont pas de déontologie, mais ils ont une capacité d'action de nuisance et beaucoup moins de recul sur la déontologie de ce qu'ils font qu'avaient les nations auparavant. Et ça, c'est le gros problème aujourd'hui, c'est que par le passé, on avait une autorégulation, c'est-à-dire que les États faisaient, s'ils faisaient des bêtises, faire exploser des satellites pour tester des missiles, pour voir comment ça se comportait, ce qui était une erreur. Donc les États ont fait quelques erreurs, mais par contre, on n'avait pas forcément la débauche de visibilité, parce qu'ils imaginent faire de la publicité dans l'espace, en mettant des satellites qui pourraient écrire des messages dans l'espace pour faire de la publicité pour certaines marques. Et ça, aujourd'hui, c'est autorisé. C'est les Américains. Et qui a été largement sponsorisé par la NASA, parce que la NASA veut plus développer de lanceurs, ou en tout cas, elle a beaucoup à utiliser SpaceX comme sous-traitant pour fabriquer des lanceurs, et c'est comme ça que SpaceX a gagné de l'argent, et c'est comme ça aussi, enfin, Starlink, c'est prévu pour faire des bénéfices, et ces bénéfices-là, ils imaginent les réinvestir dans le voyage vers Mars. Donc l'objectif, c'est quand même de faire de l'argent, quels qu'en soient les moyens et quelles qu'en soient les conséquences. On est quand même sous l'investissement privé, sans forcément de réflexion derrière sur l'impact environnemental et scientifique du projet.
En fait, la privatisation atteint même l'univers.
Exactement. On peut dire que le spatial est en train de se privatiser. Avec les conséquences que ça peut avoir.
Des pétitions ont été signées par les astronomes et l'Union astronomique internationale tente d'intervenir pour épargner certaines fenêtres. À votre avis, quelles sont les chances d'aboutissement de ces actions ?
Aucune. Aucune, parce que, comme on l'a dit, il n'y a pas d'instance qui gère le spatial, à part des autorisations de bandes de fréquences de communication et des instances étatiques qui vont décider que telle entreprise sur tel état va pouvoir lancer ses satellites ou pas. Mais on peut imaginer SpaceX n'a pas l'autorisation de la Commission fédérale américaine d'envoyer ses satellites, et ben il le fait partir depuis l'Arabie Saoudite, ou il fait partir depuis la Russie, en faisant une succursale russe ou n'importe quoi, ben il envoie ses satellites. Il n'a plus besoin de demander l'autorisation aux États-Unis pour le faire. Là, l'autorisation, elle est purement légale, et l'autorisation qu'ils ont demandé, c'est la même autorisation que va demander une chaîne de télévision pour pouvoir diffuser. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout lié au spatial, c'est plus lié au légal de communication qu'au légal spatial. Donc en fait, il n'y a aucune instance qui va un jour pouvoir dire on vous interdit d'envoyer telle fusée, on vous interdit d'envoyer tel satellite dans l'espace. Quelles que soient les pétitions, quels que soient les messages des astronomes de l'UAI ou de n'importe quelle instance nationale, internationale, d'astronomes, d'écologistes, de tout ce qu'on veut, il n'y a aucun impact. Si ce n'est l'impact citoyen, mais qui lui ne pourra pas arrêter un projet de 10 milliards de dollars.
Vous me disiez avant l'interview que la population fait un amalgame entre le déploiement de la 5G et le projet Starlink. Pouvez-vous en préciser la différence ?
En publication sur les réseaux sociaux et même dans les articles, on voit beaucoup de gens qui assimilent cette méga constellation Starlink à la 5G. En fait, les deux sont complètement différents. Starlink, c'est de l'Internet satellite. C'est-à-dire que ça existe déjà aujourd'hui. On a des satellites qui ont été positionnés autour de la Terre et qui permettent, si vous êtes perdu au milieu du Pacifique, d'avoir un accès à Internet. Ça coûte très cher. C'est quelque chose qui est loin d'être donné, mais c'est possible de communiquer par satellite depuis n'importe quel point de la Terre aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Internet par satellite. L'objectif de Starlink, c'est de rendre cet Internet satellitaire à un tarif plus bas et surtout plus rapide. Mais c'est vraiment le seul but affiché de Starlink, c'est de rendre plus accessible en fait cet Internet satellitaire que celui qui est actuellement mis en place. Donc ça c'est Internet par satellite, de la même manière qu'on a la téléphonie par satellite. La 5G, en fait c'est décorrélé, les deux sont développés en parallèle, c'est pour ça que l'amalgame est souvent fait, c'est qu'on a Starlink qui est en train de se développer donc avec cet Internet satellite, et à côté on a la 5G, ça c'est un réseau d'antennes nouvelle génération, pour avoir des meilleurs débits, notamment au niveau des smartphones, mais ça va pas passer par les satellites Starlink, c'est encore un autre système de communication. Mais les deux sont complètement décorrélés. Starlink ne va pas faire de la 5G, et la 5G n'est pas liée à Starlink. C'est deux chaînes de communication différentes qui ne sont pas du tout associées.
Comment voyez-vous l'avenir si tous les projets de mise en orbite, Starlink et les autres, réussissent ?
Ce qu'on peut imaginer et ce qui va se passer si ça continue, c'est qu'on risque d'avoir plusieurs dizaines de milliers de satellites à basse altitude, donc très brillants, beaucoup plus brillants que satellites qui sont plus éloignés, et qui vont tourner autour de la Terre, en continu. Et ils font le tour de la Terre en à peu près une heure et demie. C'est-à-dire que le même satellite, on va le revoir une heure et demie plus tard. Donc un satellite isolé qui fait le tour de la Terre en une heure et demie, on sait que si on le voit, on va le revoir une heure et demie après. Donc ça nous laisse une heure et demie pour observer. Là, le problème, c'est qu'on va en avoir plusieurs dizaines de milliers qui vont être répartis de manière relativement uniforme autour de la Terre. C'est-à-dire qu'en fait, dans le ciel, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sous le ciel, vous verrez peut-être un, deux, trois satellites simultanément dans le ciel, pas beaucoup plus. Mais d'ici quelques années, si le projet perdure, ce ne sera pas un, deux ou trois satellites qu'on va voir, mais c'est plus d'une centaine de satellites qu'on va voir en permanence au-dessus du ciel. Dès qu'on aura les étoiles fixes qui seront derrière, mais on aura en permanence 100 points lumineux qui vont bouger en même temps. Et donc ça veut dire qu'en termes d'astronomie, il n'y aura plus une seule photo qui pourrait être réalisée sans avoir une trace. Et le souci, c'est que ces satellites-là, une fois qu'ils sont mis en orbite, on ne peut plus rien faire. À part dire les 10 000 satellites, on les fait retomber, ce qui va prendre quelques années. Mais vu comme c'est parti, c'est pas du tout ce qui va se passer. Et ça peut aller qu'en s'empirant. C'est-à-dire qu'on va avoir des satellites de plus en plus les débris qui vont avec. Ce qui fait qu'au final, on va avoir de plus en plus de points lumineux qui se déplacent dans le ciel. Pour l'astronomie, ça va être un désastre. Et même pour l'observation de loisirs. Dans le ciel, on n'aura pas plus de satellites que d'étoiles. Il y a des articles qui disent on aura plus de satellites visibles dans le ciel que d'étoiles. On aura effectivement plus de points. Si on prend l'ensemble de la Terre, il y aura plus de satellites visibles à l'œil nu que d'étoiles visibles à l'œil nu. Mais dans un point donné de la Terre, c'est à peu près une centaine de satellites pour l'instant pour 3000 étoiles visibles à l'œil nu depuis un endroit qui est préservé. Donc on n'aura pas plus de satellites que d'étoiles, mais on aura des points lumineux qui se déplacent de partout dans le ciel. L'avenir, ça va être ça, si ça continue, et on n'aura aucun moyen d'action. Tous les moyens qui ont essayé d'être mis en place par Starlink pour limiter ça, donc sur les 420 satellites qui ont été envoyés, il y en a un, ils ont essayé de mettre un revêtement plus sombre dessus, en imaginant que le satellite allait être moins lumineux. Les mesures qui ont été faites, c'est que la différence, si on prend tous les satellites, personne n'est capable de dire lequel a ce revêtement sombre, pour dire en fait que l'impact est nul. Là, dans les futurs lancements, ils veulent mettre une sorte de parapluie qui va peut-être limiter la nuisance lumineuse, mais toujours pareil, avec un télescope, quelqu'un qui observe avec un télescope, c'est pour voir des objets qui sont faiblement lumineux. Même si on rend les satellites un tout petit peu moins lumineux, au télescope, c'est comme si on mettait un phare.
Quel est l'intérêt d'envoyer autant de satellites ?
C'est pire que ça. C'est pour améliorer la rapidité d'Internet. Aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, il y a déjà Internet par satellite, ça existe déjà. Sauf que c'est des satellites qui sont à 36 000 km de la Terre, ce qu'on appelle les satellites géostationnaires. Ils ne bougent pas par rapport à la Terre. On imagine qu'on est perdu quelque part en France où il n'y a pas du tout Internet. Et bien en fait, on va avoir un satellite qui ne bouge pas, qui sera toujours au-dessus de la France et qui va pouvoir retransmettre Internet en continu, envoyer du débit. Le problème, c'est que cet Internet-là, vu que le satellite est éloigné de la Terre, le délai, c'est à peu près 600 millisecondes. C'est pas quelque chose de complètement problématique. Si vous téléchargez une page internet, si elle met 600 millisecondes de retard à s'afficher, personne ne va s'en rendre compte. Par contre, il y a quelques utilisations internet dans lesquelles ça peut être problématique, c'est les visioconférences et les jeux vidéo. Et le seul moyen de limiter ce délai, c'est de mettre des satellites qui sont plus proches de la Terre. On a dit que les géostationnaires, c'est 36 000 km d'altitude. Les satellites Starlink, la plupart, ils seront entre 300 et 500 km d'altitude. Donc ils seront beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proches que les satellites géostationnaires. Et donc le délai de latence sur Internet, au lieu d'être 600 millisecondes, il va passer à quelques dizaines de millisecondes. On estime entre 25 et 35 millisecondes. Mais l'intérêt, si vraiment de regarder les choses, c'est que ça va juste être pour les visioconférences. Et encore les visioconférences, quand on y réfléchit, le délai de 600 millisecondes, il ne va pas empêcher une visioconférence. Mais sinon, c'est les jeux vidéo. C'est pour jouer aux jeux vidéo depuis le milieu du Sahara ou du Pacifique. Et comme les satellites sont plus proches, on ne peut pas les mettre en géostationnaire. Donc les satellites se déplacent plus vite. Et pour avoir une couverture en continu, on oublie d'en mettre beaucoup. Après, c'est pas l'utilité de réduire un tel délai de communication. Mis à part les jeux vidéo, il n'y en a pas. Le téléchargement, avoir un délai de 600 millisecondes ou 20 millisecondes, ça change rien. Le téléchargement des pages, c'est pareil. Donc en fait, la seule utilisation, ça veut dire que ça va être une utilisation Internet où il faut des réflexes de quelques dizaines de millisecondes. Et mis à part les jeux vidéo, il n'y en a pas.
Enfin, il y a une information qui circule sur Internet concernant un signal radio, le SGR 1935+21154, détecté pour la première fois en provenance de la Voie lactée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Oui, alors c'est ce qu'on appelle des signaux radio rapides. Quand on observe l'univers, la lumière radio, en fait la radio, c'est pas la radio telle qu'on l'écoute comme nostalgie, c'est vraiment des ondes radio, c'est de la lumière qui vient des étoiles, qui vient d'objets, qui se déplacent à la vitesse de la lumière, mais que notre œil voit pas, mais qui existe, et certains objets de l'univers émettent ces ondes radio. Et depuis plusieurs dizaines d'années, on s'est rendu compte que quand on observait l'univers, à ce moment on avait des bouffées d'ondes radio. Donc comme si on observait dans le visible, c'est comme si tout à coup on avait un flash lumineux de quelques millisecondes ou quelques dixièmes de millisecondes qui va être visible et puis qui va disparaître aussi vite. On enregistrait ça en radio, dans ce qu'on appelait des sursauts radio rapides, donc quelque chose qui est très bref et qui envoie des ondes radio. Et jusqu'ici on les voyait dans l'univers, mais à l'extérieur de notre galaxie. pour l'instant, on n'a toujours pas d'explication. Ça peut être soit des énormes étoiles qui explosent, ça peut être ce qu'on appelle des étoiles à neutrons, donc des quarts d'étoiles qui sont mortes, qui fusionnent. Et on pourrait imaginer que de tels événements, ça crée ces sursauts radio rapides. Et pour la première fois, en fait, on a détecté un sursaut radio rapide dans notre galaxie, qui a été émis et qui était proche de nous. Et l'avantage d'avoir détecté ça, pour la première fois, on est capable de savoir d'où venait ce sursaut. Et on s'est rendu compte que ce sursaut, il venait de ce qu'on appelle un magnétar. Ça, pareil, c'est un cœur d'étoile qui est mort, qui a un champ magnétique très intense. Et c'est ce magnétar qui aurait émis ce sursaut radio rapide. Ça nous a permis d'avoir une idée d'où pourraient venir ces sursauts radio rapides. Sa proximité a permis de déterminer sa source. Et en même temps, il y a une source de rayon X. Donc pareil, les rayons X, c'est une autre source de lumière, une autre sorte de lumière que notre œil voit pas et qui nous sert à faire des radios. Ils traversent notre peau et ils traversent pas les os. C'est comme ça qu'on arrive à voir les os. Et bien, ces rayons X, c'est un autre type de lumière. Et ce magnétar, non seulement il a émis un flash radio, et en même temps, il a émis un flash. Et ça nous permet de savoir d'où peuvent potentiellement venir ces sursauts radio rapides dont on ne connaissait pas l'origine alors.
Est-ce que vous pensez qu'il puisse exister dans tout l'univers d'autres êtres vivants que sur la Terre?
Pour l'instant, on a découvert de la vie nulle part dans l'univers à part sur Terre. Aujourd'hui, si on vient 25 ans en arrière, on connaissait que 8 planètes dans l'univers, qui étaient les 8 planètes du système solaire, tournées autour du Soleil, donc Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. En 25 ans, on est passé de 8 planètes dans l'univers à plus de 4000. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, à l'Observatoire de Haute-Provence, on a découvert la première exoplanète, donc la première planète qui tournait autour d'une autre étoile de type solaire que le Soleil. Et depuis cette date, depuis 1995, on a découvert plus de 4000 planètes. Et aujourd'hui, on estime qu'en moyenne, il devrait y avoir une à deux planètes par étoile. C'est-à-dire que rien que dans notre galaxie, on pense qu'il devrait y avoir 200 à 400 milliards de planètes. Qui est énorme. Aujourd'hui, tous les systèmes de planètes qu'on découvre, on se rend compte qu'ils sont très très différents du nôtre. Donc, pour arriver à trouver un système où on aurait une planète de type terrestre qui serait positionnée à peu près à la bonne distance de son étoile et qui aurait les mêmes conditions d'apparition de la vie qu'on a eues sur Terre, pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Mais on a découvert que 4000 exoplanètes. Donc, s'il y en a 200 à 400 milliards, en termes de probabilité, peut-être qu'un jour, et c'est même fort probable, qu'à un endroit dans l'univers, la vie elle soit développée. Sous quelle forme on est incapable de le prévoir aujourd'hui? Est-ce que ça va être des formes de vie qui ressemblent à l'autre, des choses qui sont complètement différentes, complètement exotiques et qu'on n'aurait même pas pu imaginer? Ça, c'est fort possible. Mais c'est fort probable que quelque part dans l'univers, il y ait une autre forme de vie qui soit développée. Ça, c'est un avis personnel. Pour moi, une des grosses questions et une des grosses problématiques, c'est est-ce que ce phénomène d'apparition de la vie, c'est un phénomène qui est fréquent et qu'on va retrouver régulièrement et à plein d'endroits dans l'univers, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel? C'est-à-dire qu'il va demander des conditions ultra spécifiques pour pouvoir se développer. Et la vraie question, c'est plus est-ce que la vie existe quelque part dans l'univers, c'est quelle forme elle va prendre là où elle existe, et surtout, est-ce que c'est un phénomène qu'on va retrouver? De la même manière qu'il y a 25 ans, on connaissait que 8 planètes, on se rend compte qu'en fait, des planètes, on a aujourd'hui partout dans l'univers, et bien est-ce que la vie, ça va pas être pareil? On va se rendre compte dans 10, 20, 30 ans que la vie, ben, c'est un phénomène qui est un petit peu dispersé et qu'on retrouve un petit peu partout dans l'univers, ou est-ce que ça reste quand même quelque chose d'exceptionnel? C'est vraiment la grosse question sur la probabilité d'apparition de la vie. Parce que même sur Terre, aujourd'hui, on a quand même des gros soucis, on a du mal à expliquer comment elle est apparue. Donc tant qu'on a cette boîte noire entre le moment où il n'y a pas de vie et le moment où la vie apparaît sur Terre, on ne sait pas d'où elle vient la vie sur Terre. On est incapable de le dire. Donc cette question-là, elle n'est toujours pas résolue pour nous, donc on est incapable de la transposer à d'autres planètes. Donc on ne sait pas en fait ici si c'est un phénomène qui va être fréquent ou pas.